France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. L'affaire Benalla et ses rebondissements ont beaucoup inspiré les humoristes de France Inter. Pas vous, vous n'aviez pas trop envie d'en parler, Gilles, pourquoi ?
Un peu moins. Il y a une telle accumulation de dysfonctionnements et de légèreté depuis des mois que ça finit par laisser sans voix.
Voilà. C'est faute de pouvoir en dire quoi que ce soit, Natacha.
Je pense que les humoristes sont meilleurs que nous pour commenter cette affaire-là. C'est, hélas, ça relève de cela. Ensuite, bon, on pourrait y aller. Mais je pense qu'il faut d'abord attendre de savoir exactement si ce sont réellement des dysfonctionnements, des maladresses, des erreurs humaines, ou s'il y a plus.
On va donc changer de sujet et faire un détour par le Royaume-Uni face au Brexit. Cette semaine, les députés britanniques ont rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles. Écoutez Theresa May, c'était mardi dernier.
Comme si on disait aux gens qui nous ont élus qu'on ne veut pas faire ce qu'ils nous ont demandé. Alors je dis aux élus de tous les partis, quelle que soit la décision que vous avez prise, penchez-vous une deuxième fois sur cet accord. Non, il n'est pas parfait, et oui, c'est un compromis. Et ce que je dis, moi, c'est qu'on doit tenir les promesses faites aux Britanniques et continuer à construire un meilleur futur pour notre pays en soutenant cet accord. Voilà ce que je demande au Parlement.
Alors, les Français peuvent se consoler en regardant la situation politique en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce sont des enjeux absolument cruciaux. Et un pays tout entier qui est devant le vide et ne sait pas exactement comment va se terminer cette histoire. Gilles ?
Oui, on a le sentiment qu'il y a à la fois énormément d'agitation. Il y a eu ce débat, cet incroyable débat parlementaire cette semaine, puis la motion de défiance le jour d'après. Et en même temps qu'il y a peu d'action, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. C'est une formidable leçon de choses. Ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Depuis 15 ans, 20 ans, l'Europe sert systématiquement de bouc émissaire pour tous les responsables politiques britanniques. Le référendum a été utilisé par David Cameron à des fins purement internes pour essayer de trancher les difficultés du Parti conservateur. La campagne menée par Nigel Farage et Boris Johnson a été une accumulation de mensonges et de manipulations. Les Britanniques ont été dans une impréparation absolument stupéfiante de ce qui allait se passer le jour d'après, ce qui fait qu'on a mis des mois et des mois avant de commencer à négocier. Ils ont, je crois, surestimé leur capacité à diviser l'Union européenne, fort de la puissance et l'habileté de la diplomatie britannique.
Pourquoi surestimer ?
Parce que les Européens ont été incroyablement unis. Et donc, on se retrouve maintenant à quelques jours de la date du Brexit. Et on ne sait toujours pas où on va. On a, je termine par là, un Premier ministre qui est totalement démonétisé, mais qui n'est pas déboulonné. Et donc, on ne sait toujours pas où on va.
Natacha ?
Je pense d'autant plus qu'il y a dans ce vote de cette semaine une conjonction, une alliance objective entre les partisans du no deal qui rêvent en fait d'un Brexit dur. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui sont partisans d'un Royaume-Uni fonctionnant seul comme une sorte de plateforme offshore avec paradis fiscal, etc. Et qui donc ont la perspective de faire réussir économiquement le pays de cette façon-là, au détriment d'ailleurs de l'Union européenne. Et donc alliance avec ceux qui s'imaginent qu'en faisant échouer l'accord de Theresa May, ils obtiendront tout simplement un deuxième vote sur le Brexit pour revenir sur ce Brexit. Et donc on a cette situation absolument ubuesque parce que l'impréparation, les mensonges dans cette affaire-là viennent de tous les côtés. C'est-à-dire que dans la campagne du référendum, oui, Nigel Farrell, Boris Johnson ont joué la politique du pire, ils ont été totalement irresponsables, ils n'avaient aucune notion de ce qu'ils voulaient derrière. Mais en face, ça n'était pas tellement mieux. C'est-à-dire que les partisans du Remain ont cru qu'il suffisait de prédire les plus de sauterelles pour convaincre les Britanniques de rester. Or, le problème est beaucoup plus profond que cela. Il aurait fallu se poser la question de savoir à quoi sert l'Union européenne, ce qu'elle doit apporter aux différents peuples européens. Et c'est en prenant le problème par ce bout qu'on aurait peut-être pu trouver une solution.
Est-ce qu'un peuple peut regretter son choix, d'un mot, Gilles ?
Oui, un peu, évidemment.
On regarde les sondages d'opinion, c'est vrai que c'est assez intéressant en Grande-Bretagne.
Mais je ne pense pas que, pour le coup, moi, qui suis pro-européen, partisan du Royaume-Uni dans l'Union européenne, je ne suis pas partisan de les faire revoter à l'identique. Mais le problème du référendum était que c'était une espèce de saut dans l'inconnu. C'est comme si on vous disait, votre appartement, il n'est pas terrible. La peinture s'écaille, les voisins sont pas très sympas et votre quartier, il est pourri, vous devriez l'abandonner. Les Britanniques ont dit OK. Sauf que on leur a pas dit où ils allaient habiter. On leur a dit, vous allez habiter, ça va être magnifique, vous avez une grande maison dans le centre de Londres, refaite à neuf. Et puis maintenant, peu à peu, ils voient ce que va être la nouvelle, ou ce que peut être la nouvelle maison. Et si deuxième vote il doit y avoir, ce n'est pas le même que le premier, c'est entre trois choix réels. Rester, le no deal.
Divorce sans accord.
Le divorce sans accord et le deal. Là, c'est un vrai choix et ce vote-là aurait du sens.
Natacha.
Cela dit, d'abord, le no deal est au moins aussi dangereux pour les Européens que pour les Britanniques et parmi les Européens pour les Français, parce que cela va poser des problèmes techniques et des problèmes économiques majeurs et que finalement, la croissance britannique est meilleure que la nôtre. Donc si on perd des points de croissance, nous risquons d'être d'en souffrir. Donc nous n'avons pas intérêt à ce no deal. Mais surtout, la question à se poser maintenant, elle est assez intéressante parce qu'elle est vertigineuse. Est-ce qu'on peut encore sortir de l'Union européenne ? Pour ma part, je pense que l'entrée des Britanniques dans l'Union européenne a été catastrophique. Ça a contribué, c'est le premier pas vers la destruction, l'abandon de tout espoir d'une Union européenne qui soit autre chose qu'une espèce de mini-mondialisation totalement atlantiste en plus, sans aucune réflexion sur l'indépendance des Européens. Et donc, il aurait fallu se saisir de ce départ pour repenser ce que doit être l'Union européenne, à quoi elle doit nous servir à nous, citoyens. Or, cela n'est absolument pas fait, et c'est ce que je regrette le plus.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
On va revenir en France avec cette crise sociale qui perdure et avec un vrai débat, une vraie polémique autour des usages disproportionnés par les forces de l'ordre de certaines armes comme les flashballs, on ne dit plus flashball mais LBD-40 pour désigner ces lanceurs de balles de défense. Il y a déjà eu aujourd'hui une centaine de blessés. L'exécutif dit régulièrement circuler, il n'y a rien à voir, mais est-ce que c'est une question technique de maintien de l'ordre, Natacha ? Faut-il interdire les flashballs, les grenades GLI F4, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ?
Il me semble que dans une démocratie fonctionnant correctement, on ne met pas d'armes dangereuses dans les mains de gens qui ne sont pas formés. On ne peut pas en vouloir aux policiers qui ont subi véritablement des moments de tension terribles, qui eux-mêmes ont eu de nombreux blessés. Il faut comprendre le surmenage qui en résulte. Mais malgré tout, le temps de formation sur ces LBD-40, qui sont les successeurs des flashballs, est absolument ridicule. C'est-à-dire qu'ils les ont en main pendant quelques heures où on leur apprend à tirer sur des cibles fixes. Ça n'a rien à voir avec le fait de se retrouver dans une manifestation, dans un moment de tension. Et d'ailleurs, les règles d'engagement qui sont censées être celles des LBD 40 ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'ils tirent dans la tête à moins de 5-6 mètres, alors que normalement c'est au minimum 10 mètres d'écart et jamais dans la tête ni dans les parties génitales. Tout cela, évidemment, dans la panique, n'est absolument pas respecté parce qu'il y a un manque de formation. Donc, ces armes sont dangereuses.
Gilles,
depuis des semaines, ici, on met en garde contre les risques que la violence en général, la violence des Gilets jaunes en particulier, fait peser sur la démocratie. C'est vrai, je l'avais dit même la semaine dernière, de toutes les violences, y compris des violences policières. On ne les met pas sur le même plan, mais de l'usage disproportionné de la violence, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on peut évidemment comprendre les difficultés devant lesquelles se trouvent les CRS, les forces de l'ordre, depuis des semaines, compte tenu de ce qu'ils ont subi, mais cette question-là se pose. La question est de savoir si c'est l'existence même de ces armes, est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est l'usage. Pour le coup, je trouve que l'Assemblée nationale devrait se saisir de cette question-là, qu'il faut pas la mettre de côté, et qu'une mission d'information, une commission d'enquête se justifie pour éclairer le débat public, les questions techniques.
Le défenseur des droits a fait ce travail-là et il a fortement déconseillé l'usage de ces armes-là et notamment des LBD. Il y a des journalistes qui ont fait un grand travail pour recenser les différents types de violences commises contre des manifestants. Ce boulot-là, il existe.
Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut y compris entendre ce que disent les forces de l'ordre, celles qui sont en charge de l'ordre public, qu'il faut entendre l'ensemble des parties prenantes, regarder le cas échéant comment le maintien de l'ordre est assuré dans d'autres pays. On peut malgré tout quand même reconnaître que dans beaucoup de pays, la violence des manifestations depuis des semaines et des semaines aurait donné lieu à de nombreux morts, que ce n'a pas été le cas, mais ces violences-là ne sont pas acceptables et je pense qu'il faut qu'il y ait un travail collectif, un travail public et que l'Assemblée nationale, et c'est une des fonctions que peut remplir utilement un Parlement dans un pays.
Natacha ?
Oui, je souscris totalement à cela. C'est-à-dire que ça relève du choix des représentants des citoyens et nous sommes dans une réflexion sur le rôle des représentants, et ben allons-y.
Allons-y.
Le grand face-à-face. Sur France Inter.
Avant d'accueillir notre invité Christophe Prochasson, une contribution au débat public. Que finance 1000 euros de dépenses publiques ? Le gouvernement a répondu cette semaine avec un graphique très pédagogique qui a été préparé spécialement pour le grand débat national et où l'on découvre que sur 1000 euros de dépenses publiques, 575 vont à la protection sociale, retraite, assurance maladie, assurance chômage, 96 vont à l'éducation. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce graphique où l'on découvre que les élus, parlementaires et autres, ne coûtent qu'un euro sur les 1000 euros de dépenses publiques. Il oriente le débat, Natacha.
Je vais vous dire, je suis un petit peu triste parce que nous étions en train de travailler avec les journalistes économiques de Marianne depuis déjà deux, trois semaines sur un sujet « Où va l'argent ?». Et l'idée était de faire exactement ce qu'a fait le gouvernement qui nous a donc coupé l'herbe sous le pied. Ils ont été plus rapides, ou plutôt ils y étaient peut-être depuis plus longtemps que nous, parce que je pense que c'est un travail important puisque ça fait partie des questions que se sont posées les citoyens. Alors, dans le travail qui est fait, la conséquence, c'est qu'il faut que nous soyons capables de voir quelles sont les prises de position démagogiques, et il y en a, sur les dépenses publiques. En effet, je veux dire, les symboles sont importants, donc quand des hauts fonctionnaires sont trop payés, c'est important. Mais c'est infime. Les élus, le coût des élus, je pense que expliquer qu'il va falloir payer moins les élus, qu'il va falloir qu'il y en ait moins, etc., ça ne résoudra pas les problèmes puisque nous voyons que c'est infime. En revanche, ça permet de regarder, par exemple, le rôle de la protection sociale, et donc il va falloir réfléchir aux fraudes à la carte vitale qui sont nombreuses, ou à ce genre de choses qui font partie des points
et retraite,
où il y a moyen.
Le poste consacré aux retraites est considérable.
Oui, mais alors là, justement, là il y a derrière il y a une analyse idéologique. Voilà, mais il y a une analyse idéologique, c'est-à-dire que on va nous expliquer que ce qui coûte cher, ce sont les retraites par répartition, mais c'est un choix politique. Nous avons fait le choix des retraites par répartition.
Oui, c'est bien. Pour une fois, on va peut-être jouer à un rôle inversé avec Natacha. J'ai été moins enthousiaste que vous. Je trouve que ce document a une immense vertu. Le tableau a une immense vertu. D'abord, c'est rare que l'administration réussisse à produire un document qui a une telle viralité. Donc, très bien, qui continue. Il a une vertu, c'est qu'il éclaire un point. Ce mot de dépense publique est impropre. Lorsque
Pourquoi
vous dites que la moitié, ce sont des transferts sociaux, ce ne sont pas des dépenses publiques, ce sont
retraite,
des biens,
assurance maladie, assurance chômage.
C'est les actifs qui financent les retraités,
voilà.
Ce sont les biens portants qui financent les malades, ce sont les salariés qui financent les chômeurs, c'est des transferts sociaux, ce n'est pas de la dépense publique. Donc déjà, il faut clarifier ce premier point.
Mais par le biais de cotisation. Bon.
Par le biais de cotisations, mais c'est pas de la dépense publique.
Non, c'est un choix politique.
Ce sont des transferts
sociaux. Social.
Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Deuxième élément intéressant, on voit que la dette, et pourtant là aussi, je dis, il faut faire attention. La dette, c'est 3,7% de l'ensemble de ces dépenses publiques, et même avec l'inflation, c'est sans doute moins. Mais pourquoi je suis moins enthousiaste? C'est moins les chiffres que le texte qui l'accompagne. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Il est très intéressant, mais il est bourré de présupposés.
Bien sûr.
Parfois même d'erreurs. Je vous donne juste un exemple. Lorsque l'on dit que le seul moyen de réduire le déficit, c'est d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses, vous avez un troisième facteur qui s'appelle la croissance. Et donc, on voit les comparaisons en fonction de ce qui arrange les auteurs du texte. Ce ne sont jamais les mêmes comparaisons. Donc, c'est à la fois ce que Bercy, que je connais bien pour y avoir travaillé quelques années il y a fort longtemps, peut produire de meilleurs et de pire.
Mais c'est une contribution au débat public avec une alternative très simple, plus de services publics ou moins d'impôts. Bon, bah, il faut choisir.
Non, justement. Et, voilà, et Gilles a raison de vous dire que ce présupposé-là...
Parce qu'on ne voit pas
où
tailler sans remettre en cause le modèle social français quand on regarde le graphique et la répartition des postes de dépenses.
Non. C'est justement non. Et encore une fois, il s'agit d'expliquer aux Français que ça fait partie du modèle social et que ce sont des choses qu'ils vont économiser par ailleurs dans leur vie. Déjà, premier point. Et que donc, il n'y a pas à penser cela comme une seule bonne gouvernance qui existerait et qui nécessite de faire des arbitrages qui ressembleraient à ceux des autres pays. Nous avons des choix politiques. Donc ensuite,
des choix politiques à faire.
On peut en effet aller regarder plus finement, et je pense que Gilles a raison sur ce point-là, la façon dont c'est présenté est essentielle et il va falloir faire le travail de fond qui va permettre d'aller regarder exactement comment se répartit tout cela, surtout comment sont mis en effet sur le même plan certains chiffres qui ne relèvent pas exactement des mêmes choses, mais par exemple sur les questions des collectivités territoriales, sur la façon dont tout cela se distribue, c'est un travail de longue haleine qui est très intéressant, mais qui doit se faire en rappelant que non, le présupposé baisse d'un impôt égale baisse d'une dépense n'est pas aussi simple que ça.
Donc c'est pas neutre, Gilles.
Évidemment que ce n'est pas neutre. Moi, je pense que poser la question en généralité sur le niveau de dépenses publiques n'a strictement aucun intérêt. Et que donc, soit on le fait de manière précise en rentrant sujet par sujet, soit il ne faut pas le faire.
Par exemple, quand on regarde, et qu'on n'y connaît pas grand-chose, mais quand on regarde le graphique, on voit par exemple que les retraites, je reprends l'exemple, sont la première masse de dépenses du pays, trois fois supérieure aux dépenses pour l'éducation.
Oui, il y a beaucoup
de... Il faut arrêter de payer les retraités.
Met les citoyens face à un vrai problème.
Mais voyez, vous dites, encore une fois, vous faites le même graphique aux États-Unis. La conclusion, c'est beaucoup moins de dépenses publiques. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup moins de transferts sociaux. C'est-à-dire que les retraites, l'assurance maladie, l'éducation ne sont pas socialisés ou ne sont pas payés par les pouvoirs publics, mais sont payés par les citoyens eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des postes et voir où on peut améliorer, et il y a des améliorations possibles sur l'efficacité de la dépense publique. Un dernier point, parce que dans ce document, il se termine par, pour être un peu taquin, par les objectifs du gouvernement. Et c'est très intéressant de voir ce qu'ils rappellent et ce qu'ils omettent. Ils omettent les objectifs de déficit, au moment où on est au-delà des 3%. Ils ne disent plus quels sont les objectifs qui étaient poursuivis. Ils omettent l'objectif de réduction du chômage que Emmanuel Macron avait fixé pendant la campagne. Ça aussi, ça a disparu. Et en revanche, il y a quelque chose qui est dans le document et qui est une révélation. Ils disent l'objectif, c'est une suppression de 80% de la taxe d'habitation pour les 80% les plus riches. Alors que alors qu'a été voté il y a peu la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde. Donc ce serait des points qu'il serait intéressant d'éclaircir.
Bah, qui n'était pas clair d'après les dernières déclarations du gouvernement. On a bien vu qu'il y avait un sujet là-dessus. Mais en effet, la réduction du chômage, par exemple, c'est un sujet. C'est un sujet dont on pourrait parler, mais curieusement, ces politiques-là, d'ailleurs, je pense qu'on va en parler à propos du grand débat, ça n'est jamais émis. On continue à faire à taux constant en essayant de dire, bon, il va falloir baisser telle ou telle dépense.
Merci pour la transition, Natacha. Le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.